Bonjour, je suis Nicolas Cardou, directeur de la culture et des sports à la région des Pays de la Loire. Et dans ma direction, il y a un pôle jeunesse et vie associative dont le responsable est ici, c'est Samuel Rigaudeau. Ce qui veut dire qu'on suit à l'intérieur de la direction toutes les questions de relation effectivement à la vie associative, de conventionnement avec les fédérations d'éducation populaire. Mais aussi avec une part importante du monde associatif qui correspond à celui du monde culturel et sportif et aussi d'action sur la citoyenneté. D'autres directions, évidemment, travaillent en lien avec le monde associatif, presque toutes les autres, je dirais, de politique publique, puisqu'il n'y a pas de champ qui exclut la vie associative, et c'est tant mieux, et c'est d'ailleurs un élément qui participe de la réalité de la région des Pays de la Loire, c'est son dynamisme en matière d'action associative, d'initiative citoyenne. Et c'est toujours important de rappeler la place particulière qu'il y a dans l'innovation sociale, François en parlait à l'instant, la place particulière que tiennent les associations dans la capacité à inventer de nouvelles façons d'agir ensemble. Alors, Alain m'avait dit qu'on parlerait plus de la loi NOTRe, donc moi je m'étais plutôt préparé sur cette question-là. J'ai pas forcément suivi, même si j'avais une connaissance des éléments qui ont évolué sur les questions de circulaires liées au mode de contractualisation entre les pouvoirs publics et le monde associatif. Donc je vais plutôt parler de la loi NOTRe et puis ensuite dire quelques éléments sur la façon dont on a pu réfléchir jusqu'à maintenant sur les questions de contractualisation. Spontanément, lorsque la question d'une loi de décentralisation a été abordée dans le débat politique, elle a souvent été mal abordée. Et c'est un constat qui a été fait régulièrement par les associations autant régionales que départementales, des régions que des départements, puisque elle a été abordée d'abord sous le prisme des compétences du millefeuille territorial et non pas de la responsabilité propre aux collectivités territoriales, avec l'esprit même de la décentralisation qui convient à associer à l'autonomie d'action fixée par la Constitution, une autonomie de ressources et donc une autonomie fiscale. Aujourd'hui, les régions sont encore à 9% d'autonomie fiscale. C'est autant dire en termes d'autonomie de ressources, une situation pour le moins insatisfaisante. Disons qu'une bonne partie des problématiques liées à la décentralisation a été tranchée lorsque la loi sur la réforme de la taxe professionnelle s'est faite et a constitué cette nouvelle forme de redistribution fiscale liée à la contribution territoriale, donc qui passe par l'État et qui agrandit la dotation globale de fonctionnement et limite la capacité des collectivités à lever l'impôt. Alors, moi, je suis directeur, j'ai pas de commentaires à faire qui soient des commentaires politiques. Je peux simplement relayer la parole de notre président de région qui considère que dans cette situation où les régions sont des nains fiscaux, fiscales, elles sont dans une situation d'inaction, disons parfois d'impuissance de leur propre ambition et une position totalement incohérente avec l'esprit même du suffrage universel qui consiste à considérer que lorsqu'on est élu par le peuple, on peut lever l'impôt. Voilà, je dis ça en introduction parce que tout ce qui peut suivre sur la loi NOTRe relativise l'ambition qu'on peut y mettre, même si elle était importante en termes de réorganisation des territoires, le postulat de départ est faussé. Donc, C'est une loi de réorganisation territoriale, ce n'est pas une loi de décentralisation. Après, ça ne veut pas dire que ça n'est pas une loi qui renforce un certain nombre de capacités d'action locale, mais ce n'est pas son objectif premier. Son objectif premier est bien de redéfinir les espaces d'action publique, les territoires d'action publique, avec au départ une intention exprimée par le président de la République qui aujourd'hui n'est plus la même, qui consistait à annoncer un effacement de l'échelon départemental, une fusion d'un certain nombre de régions, une réduction du nombre de régions de 22 par 13 à 15, donc ça a été tranché, on sera à 13 régions. Montée en puissance, même si elle n'était pas exprimée comme telle, l'intercommunalité. Il restera vraisemblablement de cette loi que le dernier point, enfin que les deux points que sont la fusion des régions et la montée en puissance de l'intercommunalité, puisque le débat parlementaire a amené à maintenir au niveau des départements une capacité et un nombre de compétences encore relativement conséquent, qui montre que c'est une collectivité qui a encore quelques années, belles je ne sais pas, mais en tout cas quelques années devant elle. Le débat aujourd'hui, dans son calendrier, passe de l'Assemblée nationale au Sénat. Il doit passer au Sénat dans une semaine. Un certain nombre de dispositions ont fortement évolué, autant effectivement sur ces questions de réorganisation que sur ces questions de compétences. Donc, pour nous, région des Pays de la Loire, vous savez, l'échelle territoriale de notre territoire ne se fait pas ailleurs que dans les 5 départements, même si il y a eu ce débat sur la fusion avec la Bretagne, qui peut-être sur une échelle à moyen terme se concrétisera, mais qui aujourd'hui, en tout cas, n'est pas apparu mûr. Les régions qui fusionnent, de fait, vont devenir pour certaines des régions très importantes en taille. En taille. Ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir nécessairement beaucoup plus de moyens d'action. Puisque, comme je disais, contrairement à ce qui a pu émerger beaucoup dans le débat public, la question n'est pas la taille des régions. La question, c'est ce qu'on veut en faire. Je rappelle que la région des Pays de la Loire est jumelée avec le Schleswig-Holstein en Allemagne, qui est une région beaucoup plus petite et qui a 15 à 20 fois le budget de la région des Pays de la Loire. Donc tout dépend de la façon dont on envisage le pouvoir local. Donc à ce stade, sur les 13 régions dont on dispose, j'essaie de voir rapidement à quel niveau sera la région des Pays de la Loire. Elle sera en tout cas plutôt dans le dernier tiers, passant de la 5e place en démographie à sans doute la 9e, 8e place, j'ai peur de me tromper, mais voilà. Ce qui n'en fait pas nécessairement une région pauvre, ce qui n'en fait pas une région qui manque de dynamique, mais qui, à tous les échelons, va repositionner la façon dont on se pense. Je ne sais pas quel va être l'impact en termes de réorganisation des organisations sociales, des couches intermédiaires que vous êtes, ces fusions de régions. Est-ce que le mouvement sportif va redéfinir sa carte d'organisation, voire même de compétition dans les régions où il y aura fusion? Est-ce que les grandes fédérations d'éducation populaire trouveront un intérêt à fonctionner en interrégion et donc en nouvelle région? Toujours est-il que ça va forcément, même si nous on sera un peu spectateurs de cette réorganisation puisqu'on ne fusionne pas, ça va forcément bouger des lignes sur le paysage français de l'organisation du monde associatif, comme du reste des organisations sociales. Il faut le prendre en compte parce que ça nous permet, en Pays de la Loire, de ne pas être dans le chaos que connaissent certaines régions aujourd'hui où la réorganisation se fait à marche forcée. Je rappelle que la fusion est effective à partir du 1er janvier 2016. les nouvelles régions, enfin les élections régionales de la fin de l'année se feront sur la base des nouvelles régions. Ce qui veut donc dire que, moi je partage avec un certain nombre de collègues d'autres régions, ils sont déjà en train de se demander comment ils vont fusionner encore les budgets, les calendriers institutionnels, c'est une chose, mais surtout les projets, les méthodes, les modes de politique publique. Et entre une région, enfin nous, si on devait fusionner avec la région Bretagne, il y aurait beaucoup de sujets sur la table, que, en particulier dans le champ du monde associatif, que ce soit sur la culture, sur le sport, sur le champ du sanitaire et du social. On pourrait aller assez loin dans cette réflexion-là. Je pense au débat qu'on a pu avoir même avec nos voisins bretons sur la question du soutien à certaines formes culturelles qui, pour eux, passaient d'abord par un soutien à la langue bretonne. Je pense au fait, dans certains domaines, d'avoir des agences qui font à la place des institutions ou en Pays de la Loire, on fait directement, puisqu'on n'a pas forcément cette culture de l'agenciarisation de des politiques publiques. C'est pas anodin. Et faire ça en quelques mois, je plains certains de mes collègues. Voilà. Donc je voulais juste commencer par signaler l'impact qu'aura cette... même si on se dit, nous, qu'on est épargné, en fait, non, on aura à penser la façon dont peut-être il faut préparer la relation avec les organisations bretonnes, parce que le sens de l'histoire, c'est sans doute quand même un petit peu ce rapprochement entre les deux régions. Et en tout cas, se préparer à avoir une carte de France qui sera nettement différente de celle qu'on a aujourd'hui, avec des fédérations qui représenteront des territoires beaucoup plus vastes. Et peut-être aussi disposeront de moyens plus importants. Ça, c'est encore une autre histoire. En matière de moyens, justement, si on prend la question des compétences, une partie importante de ce qui relève de la vie associative se situe dans le champ de ce qu'a défini le législateur comme la compétence partagée. Alors la compétence partagée, c'est une innovation de la loi NOTRe, dans laquelle on a défini quelques secteurs. Au départ, il n'y avait que la culture, le sport et le tourisme, qui autorisait les différentes collectivités à agir suite à la suppression de la compétence générale. La suppression de la compétence générale était un postulat de départ fixé par le président de la République. Ça, pour le coup, on est presque sûr que ça va rester. En réalité, je pense que, vu toutes les dispositions qui sont prévues aujourd'hui par la loi, entre les exceptions de répartition d'actions publiques. C'est-à-dire que sur un certain nombre de domaines, il est d'ores et déjà prévu que là où la région devrait être seule à faire, les départements puissent demander des exceptions pour agir. Et donc, vraisemblablement, beaucoup de départements veulent d'ores et déjà des exceptions sur certains champs qui relèvent notamment de l'économie. Là où, entre les exceptions et la compétence partagée, on peut dire que la compétence générale, elle a beau être supprimée, elle va continuer d'exister d'une certaine manière, à travers d'autres voies législatives. La compétence partagée, malgré tout, elle pose une situation inconfortable, de mon point de vue. C'est qu'elle n'est pas définie par la Constitution. Elle est cette invention de la législation, de la loi NOTRe, mais la Constitution ne reconnaît que les compétences obligatoires et la compétence générale. Jusqu'à maintenant, elle ne reconnaissait rien d'autre. Donc on va avoir ce nouveau régime qui est la compétence partagée, qui n'est donc pas obligatoire et qui autorisera à intervenir sur un certain nombre de sujets sur lesquels globalement on s'est dit qu'on n'allait pas légiférer parce que l'articulation entre les différents niveaux de collectivités était trop complexe. Culture, sport, tourisme, assurément trop complexe de définir des modèles d'action publique. Il y a eu un certain nombre de contestations du fait que, d'une part, ces champs relèvent de la compétence partagée et pas d'une compétence obligatoire et partagée, puisqu'on aurait pu, le législateur aurait pu aussi considérer que, dès lors qu'elle était partagée, elle était nécessairement obligatoirement l'objet d'une attention de la part et d'un investissement c'était au moins un signe envoyé à ces secteurs de la part des collectivités. Autre élément, malgré tout, la question de positionner ces champs spécifiques au départ culture, sport, tourisme était insatisfaisant. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais depuis, le législateur a ajouté deux autres champs de compétences que sont la promotion des langues régionales et l'éducation populaire. Alors là aussi, il y aura intérêt à savoir exactement ce que veut dire cette compétence partagée en matière d'éducation populaire. Ce que j'ai pu suivre du débat parlementaire, le débat a eu lieu pour savoir s'il fallait mettre jeunesse, vie associative ou éducation populaire. C'est un débat assez intéressant. Jeunesse, c'est trop complexe, puisque ça recoupe un certain nombre de compétences qui sont définies obligatoirement par la loi et qui relèvent de la formation, pour grande partie, ou de la protection de l'enfance, ou... Et vie associative, les parlementaires considéraient que c'était une mauvaise idée de définir une compétence partagée à partir d'un statut juridique. Donc on a pris cette notion de l'éducation populaire, dont je ne crois pas, d'ailleurs comme la culture, que cette compétence soit définie quelque part dans soit un texte de loi, soit une attribution. Je ne suis même pas sûr que autant la culture a été définie par le décret de constitution du ministère de la Culture, autant je ne suis pas sûr que l'éducation populaire soit définie comme une catégorie d'intervention publique. Voilà. Double interrogation qui peut peser, c'est qu'aussi, quand on a une compétence partagée sur un domaine qui n'est pas défini par nature, c'est un petit peu complexe. Voilà, ça c'est le débat sur la loi elle-même. Je pense important aussi d'expliquer, de donner un peu le regard qu'on peut avoir de notre côté sur la question de l'impact territorial. Ce qui va rester, c'est aussi vraisemblablement l'effacement progressif de la commune, contrairement à ce qu'on a pu annoncer sur le département. Là, la montée en puissance de l'intercommunalité est assez certaine, même si le Sénat freine des quatre. On a un débat autour de quel est le bon échelon d'intercommunalité. Le projet de loi définit 20 000, le Sénat voudrait qu'on reste à 5 000. Si l'intercommunalité passe de 5 à 20 000, en gros, on devrait passer de 2200 intercommunalités, si je ne me trompe pas, à 1100 intercommunalités. On devrait les diviser par deux. Il semble qu'il y ait un consensus qui puisse être trouvé autour de 15 000, ce qui diminuerait de 700 le nombre d'intercommunalités. Malgré tout, ça fait des intercommunalités grandes, qui sont de vrais territoires de projet, et donc qui redéfinissent aussi la façon dont on peut travailler sur ces échelles intercommunales. Ça, c'est intéressant dans notre région, où les intercommunalités, alors c'est inégal d'un département à un autre, ça c'est certain, mais où dans certains départements, les intercommunalités sont allées assez loin dans la définition de projets sur des compétences qui pour certaines relèvent de la vie associative. Mais je pense que l'un des sujets urgents, c'est de savoir comment ces territoires de projet vont pouvoir être des espaces de co-construction. On a ces questions souvent posées autour de la contractualisation dans les territoires intercommunaux, avec des conseils de développement dans lesquels il peut y avoir une représentation de la vie associative, mais c'est très aléatoire, puisque la constitution du conseil de développement n'est pas définie par la loi. Malgré tout, plus le monde associatif s'organise pour demander à exister dans ces conseils de développement, plus ils y seront. Et plus ils pèseront sur la capacité que pourraient avoir demain des intercommunalités à faire autre chose que des projets de développement, avec évidemment un système de répartition des investissements d'une commune à une autre, mais avec, au contraire, en plus, disons, de ces investissements, de vrais territoires de projet. Et là, en sens, en Pays de la Loire, on a aussi cette... du moins la région a pris l'initiative dans un certain nombre de domaines d'avoir des conférences d'acteurs qui permettent d'anticiper sur la façon dont doit se faire demain le dialogue interinstitutionnel, intercollectivité, de discuter autant avec les acteurs qu'avec les collectivités et l'État pour proposer dans différents domaines d'action publique des orientations partagées. La loi NOTRe renforce l'échelon régional sur un certain nombre de domaines, en particulier dans le champ de la formation et de l'économie. Vraisemblablement, les collèges vont rester au département. Je pense aussi qu'il y aura, à mon avis, à part les ports, pas beaucoup d'autres compétences qui seront transférées des départements aux régions. Ça m'étonnerait que les routes le soient, ça c'est sûr. Transport scolaire, pour l'instant, reste au département. Donc, après, il n'est pas impossible que, jusqu'à maintenant, l'Assemblée nationale soit restée soft pour ne pas perturber, disons, le débat des élections départementales. Et que la deuxième lecture après le Sénat soit un moment de vérité plus forte. Mais à ce stade, on est quand même dans quelque chose qui est plus proche de... Enfin, qui est moins important en bouleversement que ce qui était annoncé. Ce que je voulais dire, donc, c'est que les régions sont renforcées sur un certain nombre de champs de compétences. Elles le sont aussi dans leur place de d'ensemblier, disons, de coordination du dialogue territorial. La création de la conférence territoriale d'action publique est un élément qui peut, demain, je dis qui peut parce qu'on a des élus qui aussi émettent beaucoup de réserves sur la capacité dont ces conférences pourraient fonctionner réellement, mais qui peut être un espace de négociation sur l'organisation, voire la clarification des espaces d'intervention, des échelons d'intervention et des compétences qui peuvent être choisies entre différents échelons, avec des expérimentations possibles aussi. De transfert éventuel de l'État vers les régions ou d'autres niveaux de collectivité. Donc la conférence territoriale d'action publique, elle est présidée par la région. Et elle est un espace, elle est une instance qui pour nous fait écho à tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de conférences qui relient les acteurs et les institutions. Alors que ce soit des conférences qui se donnent des objectifs ou de structuration de secteurs, c'est le cas dans le champ de la culture, où la conférence consultative de la culture elle a vraiment un objectif de structuration des filières culturelles, que ce soit des conférences qui génèrent des orientations partagées entre un secteur déjà structuré, comme sur le sport, et des collectivités qui n'avaient pas l'habitude de se parler entre elles sur cette compétence-là, ce domaine-là, ou des conférences qui sont plus informatives, qui sont plus de l'ordre de l'échange, comme c'est le cas sur la jeunesse. Après, je pourrais vous citer d'autres types de conférences qu'on a mises en place sur la santé, sur l'économie, sur la formation. Voilà, simplement, cette dimension d'organisation du dialogue territorialisé est renforcée avec aussi des schémas qui sont devenus obligatoire, sans doute un peu plus prescriptif, alors pas des régions vis-à-vis des collectivités, mais en tout cas dans l'obligation et le contenu de ces schémas, et qui sont aussi d'ailleurs contestés par le Sénat, qui n'accepte pas forcément la tutelle régionale dans l'écriture de ces schémas. Ça veut dire que je pense que ce qui est expérimenté ici, dans l'esprit de la co-construction, ça reste quand même de l'ordre de la volonté politique. On peut aussi complètement garder l'esprit de la loi et sortir les acteurs, sortir le monde associatif, les différents représentants de ces champs d'action, pour que les collectivités décident entre elles. Il y a eu une conférence territoriale d'action publique où on a débattu du texte d'orientation partagée sur la culture. On devait mettre à la suivante le sport. Ce qui s'est passé sur la culture a dissuadé tout le monde de traiter du sport. Puisque, non, mais il n'y a pas eu d'intervention réellement sur le contenu des politiques publiques. Il n'y a eu des interventions que sur est-ce, et je peux vous assurer que c'était sensibilité confondue, hein, mais est-ce normal de devoir discuter des orientations avec les acteurs, Alors que c'est nous qui sommes les institutions légitimes, représentants du peuple. Et ce débat-là... Ce débat-là, auquel se sont, qui s'est opposé à une autre vision, de l'action publique, qui est une vision de la co-construction, de, nous a rappelé que on n'avait pas encore tout à fait convaincu de l'intérêt de notre façon de faire. Et un peu malheureusement, parce que malgré tout, on voit aujourd'hui l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir des espaces de co-construction et de dialogue. On le voit évidemment dans la capacité que, qu'ont les collectivités à faire plus intelligemment. On le voit aussi dans l'émergence de nouvelles formes d'action entre les acteurs. C'est-à-dire que dès lors qu'on met ensemble des acteurs, eux-mêmes réfléchissent différemment sans forcément que les collectivités y soient associées. Donc il y a là aussi, je pense, des éléments de philosophie et de méthode qui nécessitent un travail de conviction complémentaire et que la loi, assez légitimement, ne garantit pas seule, puisqu'elle ne fixe pas de conditions au mode d'association et au mode de construction des politiques publiques. Voilà, donc sur ces données liées à la loi NOTRe, il y a à prendre en compte effectivement le fait que on se trouve aujourd'hui dans une situation qui reste incertaine, qui ou sur lesquelles on a quelques tendances. Je disais autour des nouveaux échelons d'action territoriale et des nouvelles responsabilités. Je pense que ça n'enlève pas grand-chose à la nécessité qu'il y a à maintenir le travail que vous menez sur les chartes d'engagement réciproques, sur qui reste un travail pour nous important de reconnaissance du monde associatif et de discussion transversale et qui va bien au-delà, évidemment, de la reconnaissance d'un statut juridique qui est réellement l'idée de partager des valeurs autour de ce qu'on pouvait expliquer, ce que pouvait expliquer tout à l'heure votre vice-président, d'une façon de concevoir l'action publique. Et pour conclure et rester sur le sujet que vous abordiez autour des problématiques de contractualisation, on est évidemment souvent dans le débat à l'intérieur des services du conseil régional pour savoir, au-delà de la simple règle de d'où vient l'initiative qui conduit à faire le choix du mode de contractualisation, lorsque l'initiative est commune, comment fait-on ? Et on a eu l'occasion en 2009, à l'occasion de la conférence nationale de la vie associative, de faire une contribution auprès de Martin Hirsch. On a eu l'occasion en 2013, de renouveler cette réflexion à l'occasion de la venue de Benoît Hamon dans le débat sur la loi ESS. Évidemment, on est aussi dans la dynamique de signature de la charte. Tout ça reste encore, même si les choses commencent à se préciser, quand l'initiative est commune, il n'y a pas aujourd'hui de mode de contractualisation qui soit suffisamment incontestable pour que nous, qui défendons des formes conventionnelles le plus possible, ne soyons pas toujours, nous, j'ai direction de politique publique, en l'occurrence, qui traitons de sujets souvent liés au monde associatif, ne soyons à l'abri d'une contestation juridique quelconque. Alors, il y a des façons, parfois, d'agir qui... voilà, l'expérimentation a été une façon de répondre au financement de la CPCA puis du mouvement associatif pour la formation des bénévoles, de dire qu'on était dans le champ de l'expérimentation, ça sécurise la subvention. Voilà, si un jour il y a une contestation quelconque, on verra l'argumentaire juridique qui pourra être utilisé, mais à ce stade, on se sent plutôt sécurisé. Mais malgré tout, je pense que ce sujet de la co-construction demeure un élément à approfondir dans ce que je peux connaître. Alors après, j'ai peut-être pas toutes les données, hein, mais ce que je peux connaître des dispositions qu'on a aujourd'hui.